Cours de philosophie première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 27 mai 1999, à Saint-Jodard.
Ça, c'est un nota bene mis en grandes lettres que la personnalité sportive à Saint-Jodard se porte bien, puisque les matchs successifs font que Saint-Jodard passe devant. Alors j'espère que c'est une base solide pour s'élever jusqu'à la personnalité, la personne du sage. Je vous disais hier, cette septième dimension de la personne. Je crois que c'est très, très important pour nous de voir l'erreur de la laïcité telle qu'elle est appliquée en France. Pas seulement en France, hein, dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'on veut que l'homme puisse être une personne parfaite sans Dieu. Faire d'un orphelin spirituel un champion. Et c'est une faute grave, oui, au point de vue de l'intelligence, c'est pas nécessairement au point de vue moral, mais objectivement, c'est une faute grave contre le point de vue du développement propre, naturel de l'homme. La septième dimension de la personne, c'est le point de vue religieux. Alors, je commence par montrer ce qu'est cette personne et son caractère propre. Vous voyez, la grâce ne supprime pas la nature. La grâce présuppose la nature. Et plus la nature est parfaite, plus la grâce peut s'enraciner profondément. Je crois que c'est vraiment cette image de l'enracinement qui permet de s'élever. Et les cèdres du Liban, vous savez bien, qui ont l'enracinement dans la terre égal à leur altitude. C'est beau, ça. C'est pour ça qu'ils tiennent. Les cèdres du Liban sont l'arbre, je crois. Tant qu'on n'a pas vu un cèdre du Liban, il faut avoir des occasions apostoliques, on voyait l'exprès pour ça. Et donc, quand on a des occasions apostoliques, il faut voir cette. D'abord, on voit les psaumes, le Liban. Véni des Libanos, hein. c'est quand même quelque chose. Et alors, au plan surnaturel, la grâce s'enracine dans la nature. Alors, si la nature délibérément se coupe du point de vue de la sagesse acquise, de la sagesse philosophique, de la sagesse adoration et contemplation de Dieu, la nature humaine se durcit. Une vision anthropologique de la personne humaine à six dimensions, en niant la septième. Parce qu'on peut très bien avoir les six sans s'opposer à la septième, en disant, on n'y est pas encore arrivé. On n'y est pas encore arrivé. Mais quand on s'oppose délibérément à la septième, en disant, l'attitude religieuse n'est pas humaine, la découverte de Dieu n'est pas quelque chose d'humain. Donc quand on s'oppose délibérément à cette septième dimension, On veut donc que l'homme en soi, ce soit un laïc au sens du rejet de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est relation au Créateur. On rejette donc le Créateur. À ce moment-là, on commet vis-à-vis de l'humanité, je crois, le crime le plus grand. C'est pire que de tuer son frère. C'est sûr. Puisque on arrête le développement de l'esprit. Et on dit que c'est ça la vérité. On empêche l'homme d'atteindre sa vraie grandeur. Par la découverte de l'existence de Dieu, de l'être premier, qui est l'esprit subsistant, qui est l'amour subsistant, qui est la contemplation de la contemplation et l'amour de l'amour. En découvrant Dieu comme Père, la laïcité, sous cette forme de laïcité, je précise bien, parce que la laïcité, c'est très équivoque. Le droit canon parle de laïc, opposé au clair. Ben, cette laïcité-là, elle est bonne. C'est la nature humaine qui est créée par Dieu et qui est capable de découvrir sa source, son créateur. Cette nature humaine, elle est en attente d'autre chose, par sa contemplation, par son adoration. Elle est en attente de quelque chose. Elle est en attente du Christ. Cette attente du Christ, elle existe actuellement dans l'humanité. Il y a ceux qui l'ont découvert et ceux qui ne l'ont pas découvert et qui sont en attente du Sauveur. Alors quand on est dans cette attente du Sauveur, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. C'est la noblesse de la grandeur humaine. Et c'est vrai, quand on découvre Dieu, la réponse de l'homme, c'est l'adoration. Reconnaître ce qu'il est dans sa dépendance à l'égard du Créateur qui est son Père. Découvrir le Créateur comme Père, c'est très grand. Et ceci, c'est l'intelligence et l'amour humain qui s'unissent et qui, en étant unis, peuvent répondre à cette grande interrogation, qui est l'interrogation la plus grande de toute notre vie. Existe-t-il un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu ? Est-ce que ces traditions religieuses qui parlent de Dieu, est-ce que c'est un mythe, comme une espèce de rêve que l'homme fait, découvrir un monarque, le grand monarque, le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Ou est-ce que c'est la réalité? Ce que Heidegger dit, que c'est le propre de la philosophie. C'est du reste beau, faire ce discernement dans les traditions religieuses, entre ce qui est mythique, un langage symbolique, qui est un rêve imaginatif, très beau, sur le début de l'humanité, sur la fin de l'humanité. Est-ce que c'est mythique ou est-ce que c'est le logos, la réalité? Alors je crois que là, le philosophe peut faire cette distinction. Le chrétien, alors en nota bene, le chrétien dirait que quand Dieu parle, il prend un langage symbolique, et ce langage symbolique peut se transformer en une sorte de mythe. Vous voyez, le récit biblique sur l'apparition du premier homme et de la première femme se donne à nous selon un langage symbolique mythique. C'est vrai. Mais quand le mythe est révélé, il exprime une réalité. Ce n'est plus un rêve de l'homme. C'est Dieu qui parle à son enfant et qui lui raconte une très belle histoire. Sous un mode que l'enfant peut comprendre, sous un mode mythique. Mais c'est Dieu qui l'enseigne. Et Dieu n'a pas d'imagination. La sagesse divine prend tout en Dieu. De sorte que quand Dieu se sert d'un mythe, quand Dieu se sert d'un symbole, ce mythe et ce symbole divin expriment une réalité très cachée, comme un secret qu'on enveloppe. Alors quand on n'emploie pas de symbole et quand on n'emploie pas de mythe, il n'y a qu'une couverture. Quand on emploie un symbole et qu'on emploie un mythe, il y a trois couvertures. À décrypter, il faut décrypter le symbole, le mythe, il faut décrypter le symbole, il faut décrypter le langage humain. C'est très curieux, mais c'est très important à comprendre ça. Parce que des tas d'équivoques viennent de là. Et c'est mythique, donc c'est pas vrai. Pas du tout. C'est mythique et c'est vrai. C'est une vérité qui dépasse la vérité humaine, qui est une vérité divine. Une vérité que le philosophe ne peut pas atteindre, que seul le croyant peut atteindre, seul l'enfant du Père peut atteindre. C'est un langage paternel, paternel divin. Parce que dès que je découvre Dieu, mon créateur, créateur de mon âme spirituelle, je découvre le Père. Et je vois qu'il y a immédiatement l'exigence de l'adoration. Cette septième dimension se fonde sur cette vérité que mon âme est créée par Dieu, directement. J'ai donc avec Dieu une ressemblance unique. J'emploie alors l'analogie per similitudinem dans le langage de Thomas d'Aquin. Tandis que quand je regarde l'être, j'emploie l'analogie au sens propre. Saint Thomas emploie les deux. Aristote ne l'emploie pas. Et c'est la différence entre l'analogie de Saint Thomas et l'analogie d'Aristote. Pour Aristote, l'analogie au sens fort, c'est toujours l'être. Et l'analogie au sens fort, c'est l'être. Et l'analogie au sens fort, c'est simpliciter diversa et quelque chose de commun. L'analogie per similitudinem, c'est l'analogie très proche de l'artiste. Il y a une comparaison par la similitude. Entre Dieu et l'âme humaine, il y a une similitude, l'esprit, l'intelligence, la vérité, l'amour spirituel, le Père suprême. Et c'est pour ça que je découvre le Père. Tandis que par l'analogie uniquement de l'être, je ne découvre pas le Père. Je découvre le Dieu créateur. Et entre le Dieu créateur et moi, Il n'y a aucune ressemblance. L'être de Dieu est infini, mon être est fini. Mais il y a l'analogie de l'être. Quand je découvre le Père, je découvre qu'il y a un terrain commun, l'esprit. C'est l'analogie père-simulisme de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin n'explique pas, il l'emploie. Et des quantités, vous n'avez qu'à regarder les traductions. Quand cet homme emploie l'analogie père-simulisme, on traduit analogie. C'est mal traduit. On confond. Et les traductions de Thomas d'Aquin, celles qui sont faites, Revue des Jeunes, confondent tout le temps ces deux analogies. Et donc, on confond le Créateur et le Père. Le Créateur, c'est celui qui donne un être gratuitement. Et le Père, c'est celui qui communique la vie. Père, c'est pas celui qui donne la vie, c'est pas celui qui crée l'être, c'est celui qui communique la vie de l'esprit, la vie de l'amour. Et communique la vie en faisant que son fils, qui est sa petite créature, que son fils est appelé à une vie qui a une similitude avec le Père. Le désir naturel de voir Dieu. Ça, c'est le désir, non pas de la créature comme créature, mais c'est le désir du Fils à l'égard de Dieu Père. Je veux voir ton visage. C'est ça le désir du Fils. Je sais que tu es là, mais je veux voir ton visage. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est bien le visage du Père. Ça, c'est le cri de l'enfant. Je veux voir le Père, le visage du Père, qui n'a pas de visage, mais qui est l'esprit, la contemplation de la contemplation. Et donc, si c'est la contemplation de la contemplation, mais commençons par la contemplation. Il y a donc cette découverte de la sagesse qui veut la contemplation. Tant que je n'ai pas découvert Dieu, je ne découvre pas ce que c'est que la contemplation. L'ami qui contemple son ami. Et je me souviens ça. C'était un vieux souvenir au Sochois. Il y avait un très bon frère convert. Qui le matin pour l'horizon, ça avait été toujours à la même place. En face de quelqu'un d'autre. Un jour, j'ai dit, pourquoi tu es là tout le temps là? Oui, je contemple en regardant mon frère. C'est mon ami, je le contemple. Oui, mais attention, attention, la contemplation de Dieu, c'est pas la contemplation de ton ami. On ne contemple pas son ami et pas Dieu. Oh, pour moi, c'est le tremplin. Quand il n'est pas là, Dieu est tellement loin. Quand il est là, je contemple l'ami. Il contemple l'ami. Mais c'est le visage de Dieu pour moi. Il dit, ton ami n'est pas quand même le fils bien-aimé du Père. Ah, il l'est quand même un petit peu. Alors il se rattrapait tout le temps. Il y avait toujours un petit quelque chose. Le Père similitudien. Il ne disait pas ça parce que ça c'était un terme technique, mais c'était ça la réalité. La contemplation, l'opération de l'intelligence la plus pure, c'est contempler. Vous voyez, dans les dimensions de l'homme, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la recherche de la vérité, c'est pas la contemplation encore, c'est la voie vers la contemplation. Mais ce n'est pas la contemplation. La contemplation, c'est contempler quelqu'un de réel et que je peux atteindre et regarder. Il faut que je touche le Créateur, spirituellement, intellectuellement, il existe, il est, Dieu est. Il est nécessaire que Dieu existe. Il est nécessaire que Dieu existe comme Créateur. Et puisque Dieu existe comme Créateur et qu'il a créé en moi une intelligence capable de l'atteindre et d'affirmer qu'il est présent, d'affirmer qu'il est plus présent à moi-même que je suis présent à moi-même, et d'affirmer ça en toute certitude, comme une nécessité. S'il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même, je me mets au garde-à-vous. Mais au garde-à-vous spirituel, divin, c'est des yeux, je le regarde. Je ne vois rien, mais je le regarde. Et toutes les autres figures que je vois sont dépassées. Ce n'est pas celle-là que je regarde. Un regard intérieur. Je ferme instinctivement les yeux pour que toutes les autres figures disparaissent. Et je regarde. Et j'ai soif qu'il me regarde. Et je sais qu'il me regarde. Qu'il me voit. Il voit tout en moi. Et la chose qui l'intéresse le plus, c'est ce désir que j'ai de le voir. Ah ça oui. Je sais que quand j'ai le désir de voir Dieu, un vrai désir, hein, un désir qui saisit toute mon intelligence et tout mon cœur, quand j'ai ce désir de voir Dieu, Dieu, mon Père, se penche sur le petit enfant prodigue. Et je vis cette rencontre de l'enfant prodigue. J'ai vécu pendant un certain temps loin de la maison du Père. Je l'ignorais. Et maintenant, je sais qu'il est là. Et je me laisse porter par lui, embrasser par lui. Puisque il est présent, plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Il est présent à ce désir que j'ai. Et c'est lui qui fait que ce désir est la réalité la plus grande que je puis réaliser, humainement parlant, avec le secours de Dieu, avec le secours du Père, avec l'appel du Père. Il y a cet appel, si fort, qui me saisit. Comme dit Aristote, que je vis que momentanément, alors que Dieu le vit toujours. C'est beau d'avoir dit ça. Ça prouve qu'Aristote a eu cette expérience de le vivre momentanément, comme des éclairs. Et c'est pour ça que l'Apocalypse parle des éclairs. Comme du tonnerre. Parce que l'adoration, je suis rien. Ce qui est intéressant, c'est de tendre mon regard vers Dieu et d'être dans cette attente. Je ne le vois pas face à face, philosophiquement. Je ne sais pas si un jour je le verrai face à face. Mais le désir de le voir est quelque chose de si grand. C'est ce qu'il y a de plus grand en moi. C'est ce qu'il y a de plus beau en moi. Ça m'ouvre à l'infini. Ça m'ouvre à l'éternité. Vous savez, c'est comme la respiration. Quand on est devant le petit matin, le soleil qui se lève, et qu'on respire. La respiration de l'intelligence, c'est la contemplation du Père, présent. Présent, plus intime de moi-même. Et qui est là et qui m'attend. Et qui m'attire. Et qui m'aime. Ce n'est pas un regard glacial. Non, c'est un regard aimant. Vivre cela, la contemplation philosophique, c'est-à-dire la sagesse acquise, l'habitus de sagesse est contemplatif. Et je peux avoir cet habitus métaphysique. Je l'acquiers. Donc je peux, quand je puis, avoir suffisamment de temps, m'élever jusqu'à cette contemplation par l'adoration. L'adoration me met en toute vérité, au point de vue de mon être, dans mon être, dans mon exister, dans mon Dasein, que dirait Heidegger, dans mon Dasein, dans mon exister spirituel, personnel. Mon exister personnel, c'est la soif, c'est le désir de voir le visage de mon Père. Je peux aller jusque-là. Et je frappe à la porte. Et on me répond, attends, mais vite ce désir. C'est ce qu'il y a de plus grand. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et ce feu, ce désir, est une joie pour mon Père et pour moi. Je puis aller jusque-là et découvrir à ce moment-là la personne humaine la plus grande, la plus noble qui soit. Je découvre la dignité suprême de ma personne, l'excellence de ma personne humaine en tant qu'esprit, qui est toute tendue vers le Père, vers son Père. Parce que le Père, c'est toujours son Père. Rien n'est plus concret que le Père. Pour l'enfant, pour le contemplatif, rien n'est plus présent que son Père, dans la lumière, dans l'amour. Et c'est lui que je contemple. Cette contemplation m'ennoblit. Souverainement, je suis fils, naturellement, grâce à la création de mon Père. Et j'attends tout de lui, puisque par l'adoration, je me mets dans cette attitude d'abandon total. J'attends tout de lui, parce que lui seul me connaît vraiment. Mes amis, mon ami, humainement parlant, au plan divin c'est différent, mais humainement parlant, mon ami ne connaît pas ce désir intérieur. Je lui dis, il l'entend, mais il ne le vit pas, sauf si lui-même a suivi la même voie. Mais ma contemplation n'est pas la sienne. Elle est ce qu'il y a de plus personnel en moi. Et je suis heureux que mon ami vive de ce qu'il y a de plus personnel en lui, de ce qu'il y a de plus noble en lui, de ce qu'il y a de plus grand en lui. C'est en ce sens-là que la sagesse philosophique est de fait ce qui donne à l'homme, à la femme, l'unité. L'homme et la femme, là, sont un dans cette même contemplation. Il n'y a plus de rivalité, parce que Dieu n'est pas un rival. Et quand je contemple Dieu, l'homme le contemple en tant qu'esprit, en tant qu'il y a en lui l'esprit. La femme contemple Dieu en tant qu'elle est esprit. Et l'un et l'autre contemplent Dieu dans cette solitude qui est une solitude divine et donc qui est un enrichissement unique, mais qui est une solitude en dehors de cela, tout le reste, c'est peu de choses. C'est très grand, mais c'est peu de choses. Et c'est dans cette lumière-là où l'amour humain, la relation des deux, si l'un et l'autre n'atteignent pas cette contemplation de Dieu, leur amitié demeure toujours dans la fragilité. La mort peut venir. Si l'un et l'autre contemplent Dieu, cette contemplation est victorieuse de la mort. La mort ne touche pas l'esprit et ne touche pas cette soif de contemplation au point de vue humain. C'est sûr que ça reste une très grande fragilité, parce que si je suis malade, fatigué, cette contemplation philosophique ne peut plus exister. Il faut avoir ma tête, mon intelligence, et un trop grand mal de tête m'empêche, m'arrête. Une trop grande fatigue m'arrête. Tandis que si je suis habitué à cette recherche, habitué à l'adoration vraie, puisque cette recherche ne peut se faire que dans la vérité, et c'est par l'adoration que je suis dans la vérité pratique. Je suis dans la vérité pratique quand j'adore. Mais en dehors de l'adoration, quand je quitte l'adoration, très très vite, ma vérité pratique n'a plus la même limpidité. Je m'arrête à ce que je fais. À ce que je fais, oui, c'est une petite colline, c'est pas grand-chose, à côté de l'Himalaya. La différence entre, je me rappelle, dans le nord de la France et la Belgique flamande, il y avait la plus haute montagne, on disait, tellement de la très sainte Trinité. Elle avait 100 mètres de haut. Hein, pas grand-chose à côté de l'Himalaya. Eh bien, comparativement, cette contemplation philosophique de Dieu est infiniment plus grande que toute amitié. Mais je ne méprise pas du tout l'amitié. Je comprends la grandeur de l'ami, surtout si cet ami lui-même atteint cette contemplation philosophique ou la cherche, en a le désir, en a soif. Alors à ce moment-là, c'est deux Himalayas qui sont proches l'un de l'autre et qui, dans le terme, s'unissent. C'est merveilleux, ça. Leur unité, elle est dans ce terme. Elle n'est pas dans leur rencontre. Dieu ne fait pas nombre avec l'ami. Si Dieu faisait nombre avec l'ami, ça prouve que je n'ai pas atteint Dieu. J'ai atteint la nuée qui est autour de Dieu. C'est déjà très beau, mais ça reste imaginatif. C'est imaginatif de dire que Dieu est rival de l'amitié. C'est imaginatif. Dieu est père de l'amitié. Oh, pas rival, père de l'amitié humaine. Et il s'est servi d'amitié humaine pour qu'il y ait une voie plus proche qui me permet d'atteindre naturellement Dieu. Et quand je l'ai atteint, loin de considérer Dieu comme un rival de l'amour d'amitié humaine, ça c'est imaginatif. Je le considère au contraire comme celui qui ne cesse de me rappeler la dignité de l'homme, la dignité, la grandeur de l'ami. C'est si grand. Lui aussi est fait pour Dieu. Et Et ma plus grande joie comme ami, c'est il est fait pour Dieu. Et nous sommes donc faits l'un et l'autre pour Dieu. Et nous nous rencontrons divinement dans le silence auprès de Dieu, dans cette contemplation de Dieu. Je crois que là nous touchons, vous voyez, la personne humaine dans sa dimension ultime. C'est la personne du sage. Du sage naturellement. Parce qu'il a atteint Dieu. Et cette sagesse demeure. Elle n'est pas supprimée par la sagesse chrétienne. Elle demeure avec toute sa dignité. Et le point de vue chrétien, loin de supprimer cette sagesse et cette amitié humaine, montre que Jésus vient ennoblir divinement par la grâce, par la croix, cette sagesse humaine et cette amitié humaine. Il y a là quelque chose qui est merveilleux. Et la métaphysique doit conduire à cela. Une métaphysique qui ne conduirait pas à ça, elle est tronquée. Elle ne va pas jusqu'au bout. Et je comprends très bien que ça ne peut se faire que dans un certain climat. Très difficile pour quelqu'un qui est pris par la complexité des affaires humaines, d'avoir une intelligence suffisamment au repos. Vous voyez ce que je veux dire ? Au repos, dans le sens où la contemplation fait un repos des passions. Tout est tellement agité. Alors quand tout est agité, les choses du fond reviennent en surface. Et ce n'est pas toujours très beau. Toutes les blessures sont là. Et on est plus infirmier que sage. Alors on essaie de guérir les blessures, de les rafistoler. Il faut beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Pour que tout cela tombe. Et qu'il n'y ait plus que cette limpidité de l'intelligence qui contemple celui son Père comme créateur de son âme, qui est le Père de son intelligence, le Père de son cœur, de sa volonté. Mais nous comprenons alors que cette contemplation de Dieu, si pauvre qu'elle soit, je n'ai pas de concept de Dieu. J'affirme son existence. Mes forces. C'est une nécessité. Alors, la nécessité, c'est ce qui mobilise toute mon intelligence. Quand mon intelligence est en face du nécessaire, elle est mobilisée. Vous savez, on voit de temps en temps, quand on voit ces soldats qui sont en face d'un palais royal, là où il y a encore la royauté, et qui sont au garde-à-vous toute la journée. On a envie de leur dire, je vais prendre ta place pour que tu peux te reposer un petit moment. Ils sont au garde-à-vous toute la vie. C'est le nécessaire, mais notre intelligence au garde-à-vous. On est saisi, on est pris. Et tous les écrous sont bien serrés pour le nécessaire. C'est très très fort. Or, quand j'affirme, il est nécessaire qu'il existe un être premier. Je suis entièrement mobilisé pour cette affirmation. Tout le reste disparaît. Et je suis tout entier pris par ça. Il est nécessaire qu'il existe. Et je peux, grâce à cette nécessité, m'arrêter et contempler. S'il n'y avait pas cette nécessité, je ne pourrais pas m'arrêter, je ne pourrais pas contempler. C'est grâce à cette nécessité que je puis m'arrêter. Dire oui. Qu'est-ce qu'il est pour moi, celui-là? Celui que j'affirme. Il est nécessaire qu'il existe. Il est mon créateur. Entre lui et moi, aucun obstacle. Aucun médiateur. Il est le créateur. Et il est présent. Présence d'immensité. Au plus intime de son action sur moi. Son action de créateur se termine dans le temps. Mais son action de créateur me mène dans l'éternité. Ça ne fait qu'un avec lui, avec Dieu, dans son éternité. Et je contemple autant que je peux celui que j'affirme avec nécessité. Il est. Même si cette contemplation n'est que pour un moment, elle éclaire tout. Et elle donne à tout le reste de ma vie sa vraie signification. Alors à ce moment-là, je comprends les deux extrêmes de ma vie. L'adoration et la contemplation du Père. J'adore Dieu créateur. J'adore mon Père créateur de mon âme. Et je m'anéantis devant lui. Je reconnais que tout vient de lui. Tout mon être vient de lui, par mon âme. Mon corps est transformé par la présence de mon âme. C'est un corps humain. Et le corps humain est créé par Dieu à cause de l'âme. Le corps comme tel, il provient de la procréation. Il y a tout un atavisme. Ta vie jusqu'au bout de mes doigts. Je dépends de tous ses ancêtres. Et c'est arrivé à moi. Mon corps montre cette continuité dans le temps. Mon corps me met dans le monde et dans l'histoire. Être dans le monde, être dans l'histoire, oui, ça fait partie de la philosophie contemporaine. Être dans le monde et dans l'histoire, d'où ça vient? De mon corps, conditionné, conditionnement substantiel. Je suis dans le monde et je suis dans l'histoire. Et par l'adoration, je touche être dans le monde et dans l'histoire, en reconnaissant que je suis capable de cela, de le reconnaître. Dans la lumière de Dieu. Dieu m'a créé dans le sein de ma mère. Et c'est lui qui a choisi ma mère. C'est pas moi. Il m'a créé là. Et ce lien avec ma mère, ce lien avec mes parents, ce lien avec ma famille, ce lien avec ma patrie, ce lien avec l'univers, dans la création, tout cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Dans l'acte créateur, je reconnais cela. Je reconnais que cet amour que j'ai pour ma mère, cet amour que j'ai pour mon père, cet amour que j'ai pour mes frères, mes sœurs, cet amour que j'ai pour ma famille, cet amour que j'ai pour ma patrie, cet amour que j'ai pour cet univers. Tout cela vient de l'acte créateur de Dieu. En dernier lieu, Dieu s'est servi de toutes ces causalités secondes, de tout cet atavisme. L'atavisme, c'est un ordre des causalités secondes. Tout ça est présent. Et je le regarde et je l'offre à Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Et Dieu continue de me le donner dans la providence. La providence, ce sont ces liens que j'ai avec ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Et ce lien vient par le corps, mais dès que je reconnais ce lien devient spirituel, par l'acte créateur, qui fait que j'offre tout à Dieu. Je remets tout dans les mains de Dieu. In manus tuas, dans les mains de Dieu, dans les mains de mon Père qui dépasse toutes les paternités. Je remets tout ça à Dieu. Et je reconnais que mon âme spirituelle est créée par lui, directement, et qu'il est là présent. Et ensemble, nous nous regardons, nous aimons, nous sommes liés. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est avec lui. Et cet acte contemplatif me permet de comprendre que c'est ça qui finalise ma recherche de vérité. Et ma recherche de vérité, finalisée par cette contemplation, prend tout son sens. Et toutes les petites erreurs qui sont tombées, je vois bien qu'elles ne conduisent pas à Dieu. Et donc, je les jette. Il y a une purification merveilleuse de la recherche de vérité par cette contemplation. Je vois que l'amour que j'ai pour ce Père, qui est mon Créateur, qui m'a tout donné, c'est un amour d'amitié, en ce sens que je réponds autant que je peux à son amour. Et cet amour d'amitié se réalise avant tout dans un désir, dans une soif. J'ai soif d'être présent à mon Père. J'ai soif de vivre de sa présence. Mais c'est très limité. Et je vois que mes amitiés humaines, les plus nobles, les plus grandes, les plus belles, sont purifiées, sont affermies par celui qui est mon ami, mon Père. Je vois que ma prudence prend toute sa signification. Je vois que ma capacité de transformer l'univers prend toute sa signification. Je suis celui achève l'œuvre du Créateur dans le monde physique, du Créateur dans le monde de l'éducation spirituelle, de l'esprit et de la volonté. Et je vois que mon corps est vraiment ce conditionnement substantiel, qu'il ne détermine rien, et qu'il